Bonjour, c'est une petite musique que l'on entend, enfin disons que l'on commence à entendre à propos de la réforme des retraites. Il n'y a pas de problème de déficit du système, ou plutôt tous les problèmes seront résolus à partir de 2024 grâce à une cagnotte miracle nommée la CADES. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, pourquoi n'entend-on pas plus souvent cet argument dans les débats sur le sujet ? Pourquoi si peu d'enquêtes sur la CADES et le secours qu'elle pourrait apporter au système de retraite ? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui avec trois invités, Juliette.
– Oui, Henri Sterdignac, vous êtes économiste, membre des économistes atterrés. Vous dénoncez les discours officiels sur le déficit de la sécurité sociale comme étant un mensonge d'État. Philippe Leduc, vous êtes médecin directeur d'un think tank économie santé. Et enfin, par Skype, nous avons Christian Eckert, vous êtes ancien secrétaire d'État chargé du budget et vous dénoncez aujourd'hui la manière dont est menée la réforme des retraites.
Voilà, ancien secrétaire d'État chargé du budget, sous François Hollande, je le précise. Alors, avant d'en venir à la question de savoir ce qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire si cette cagnotte existe, cette fameuse cagnotte, il faut peut-être rappeler, Juliette, le discours général qu'on entend sur toutes les antennes sur justement le déficit du système.
Oui, représenté par un rapport récent, donc à la mi-novembre, le Conseil d'orientation des retraites, qui dépend du bureau du Premier ministre, a publié un nouveau rapport chiffrant les prévisions de dette des retraites d'ici à 2025 et selon les différentes estimations de hypothèses de croissance. Le corps considère que la dette des retraites pourrait s'élever entre 7 milliards et 17 milliards d'euros en 2025, donc des conclusions reprises avec l'alarmisme de circonstances sur les plateaux télé dans les jours qui ont suivi.
Le corps, le Conseil d'orientation des retraites, a confirmé que le régime des retraites subirait un lourd déficit pouvant atteindre jusqu'à 17 milliards d'euros en 2025 si rien n'était fait d'ici là.
Selon le corps, nos régimes de retraite seront lourdement déficitaires en 2025. Les experts donnent une fourchette entre 8 et 17 milliards d'euros de déficit. Bonsoir François Langlais.
Bonsoir Gilles.
Question très simple, ces chiffres sont-ils incontestables ?
Ils sont solides, ce sont des chiffres solides.
Et sur les économies, parce qu'il y a la réforme systémique et puis aussi le fait qu'on va être en déficit, c'est ce que nous dit le corps très vite, il faut trouver 17 milliards.
8 à 17 milliards d'euros, ce sera le déficit des retraites en France en 2025.
Le Conseil prévoit désormais un déficit de 8 à 17 milliards d'euros en 2025. Et encore davantage en 2030.
Ah bah c'est intéressant, 17 milliards, ça fait l'argent qu'on a donné à nos amis les Gilets jaunes.
Mais si en fait de l'argent pour financer les retraites, il y en avait, c'est l'argument que l'on entend circuler particulièrement dans ces derniers jours sur certains plateaux télé, dans la bouche d'économistes, de représentants de la CGT ou encore d'élus du Rassemblement National ou du PS.
Il y a de l'argent. Et oui, il y a de l'argent dans les caisses, et beaucoup plus qu'on le croit. Et tout le monde le sait, mais on le cache.
Le corps, le Conseil d'orientation pour les retraites, nous dit qu'il y a une manne financière qu'a le gouvernement pour remettre le système actuel à l'équilibre bien avant 2025, une manne actuelle de environ 150 milliards d'euros.
Au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites.
On a 150 milliards dans les caisses de réserve des retraites. 150 milliards
alors... Aujourd'hui, il y a des fonds de réserve des retraites, 150 milliards environ, c'est-à-dire l'équivalent d'une année de recettes de la TVA.
La CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros.
Pourquoi cacher aux Français que 24 milliards de leurs impôts seront disponibles tous les ans à partir de 2024. 24 milliards, c'est-à-dire que ça compense très largement et au-dessus ce que coûtera la retraite.
Nous avons 24 milliards qui tombent chaque année à compter de 2024. Et donc nous avons là la possibilité non seulement de financer les retraites, mais en plus de financer les EHPAD et les hôpitaux publics.
Alors, Christian Eckert, bon, on vient d'entendre des opposants, des syndicalistes CGT, donc forcément on hésite à les croire, on se dit voilà, ça, évidemment ça les arrange bien. Mais là, tout d'un coup, on a un ancien ministre du budget, donc quelqu'un qui est supposé connaître les chiffres, qui nous dit oui, c'est vrai. Alors, expliquez-nous.
Bah, écoutez, il y a essentiellement trois types de réserves. Il y a d'abord ce qui est évoqué dans les caisses, deux différentes caisses, qui sont assis sur ces réserves un peu comme sur un tas d'or, en disant surtout ne venez pas les piquer.
Quand vous dites différentes caisses, vous faites allusion à quelle caisse ?
Ben, je pense à la cause, je pense à la caisse.
Oh là là, attendez, excusez-moi. Alors, on va essayer d'éviter les sigles dans cette émission, parce qu'on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas. Donc, quelles sont ces caisses ?
La cause, c'est la caisse de retraite, on va dire, complémentaire des salariés du privé.
D'accord.
Vous avez les avocats, vous avez les clercs de notaire, on parle de la Banque de France, bon, il y a un certain nombre de régimes qui ont constitué des réserves. Le gouvernement a dit qu'il n'y toucherait pas. Bon, on fait un système universel, mais on ne mutualise pas les plus et les moins. D'accord. Deuxième réserve, celle-là, personne ne la conteste, à hauteur d'environ 30 milliards, un peu plus, c'est le fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Lionel Jospin. Mais ça, si j'ose dire, ce sont des one-shots, ce sont des sommes qui sont disponibles mais qui ne serviront qu'une fois. Ce qui est essentiel, c'est la fin de la dette de la Sécurité sociale en 2024. Elle est annoncée, confirmée, et ça, ce sont des recettes annuelles qui actuellement servent à rembourser la dette. Il y a la CRDS, contribution au redressement de la dette sociale, que tous les Français payent à hauteur de 0,5% de leurs revenus. Ça vient en plus de la fameuse CSG. Et il y a des fractions de CSG, il y a aussi d'autres recettes, j'allais dire, diverses, qui tournent autour de 20 milliards annuels. On parle de 24, mais au bas mot, ce sont autour de 20 milliards par an qui vont être disponibles à partir de 2024. Donc par rapport à ce qu'annonce le corps, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réforme à faire, je dis qu'il faut mettre tous les éléments sur la table. Et dernier point qui m'a profondément choqué, c'est que le Premier ministre a fait un discours d'une heure en égrenant des mesures diverses et variées. Il n'a pas cité un chiffre. Aucune de ces mesures n'a été chiffrée et quantifiée. Combien ça coûte d'avoir une retraite minimale à 1000 euros? On ne sait pas. Combien ça coûte de prendre en compte les petits boulots dans le calcul de la retraite? On ne sait pas. Combien ça coûte le fait d'avoir perdu les cotisations des hauts salaires à partir de 10 000 euros par mois? On ne sait pas. La seule chose qu'il nous dit, c'est que pour couvrir tout ça, il faut allonger, si j'ose dire, inciter, voire quasiment obliger les salariés à travailler plus longtemps en disant « mais tout ça reste négociable ». Je n'ai jamais vu ça. J'ai pendant 3 ans géré au mieux les comptes publics. À chaque fois qu'on élabore des projets, on met un chiffrage derrière chacune des mesures et on fait un tableau qui consolide à la fin les plus, les moins, les économies qu'on a fait, les surcoûts que l'on a prévus. Je n'ai vu aucune de ces mesures, ni dans le discours du Premier ministre, ni même dans le rapport Delevoye que j'ai lu, parcouru, revu, relu. Il y a parfois quelques simulations individuelles. Il n'y a jamais de tableau financier, comme on dit entre nous, des tableaux d'équilibre quand on élabore un budget. Ceci me choque profondément.
Alors, on va revenir en détail, Christian Eckert, sur chacune des 3 cagnottes que vous nous avez énumérées. Parce qu'on a vraiment envie de savoir si ces cagnottes existent. Hein. On a quand même du mal à croire au Père Noël, même si la date approche. Mais alors, la première chose que je ne comprends pas, c'est si vraiment ces réserves existent, comment expliquer qu'elles soient si peu versées dans le débat public? Vous avez entendu Berkoff tout à l'heure sur Sud Radio. On le cache! Mais on le cache vraiment? Mais qui le cache et pourquoi on le cache?
Parce que ces réserves sont souvent convoitées. Certes, une partie pourrait servir à la dépendance, à une branche supplémentaire ou nouvelle de la sécurité sociale. Moi, j'y suis favorable. Les rapports qui ont été faits sur le sujet parlent de 5 ou 6 milliards de besoins à horizon 2025-2030. Il en reste, quand je parle ne serait-ce que de la recette annuelle de la CADES, de la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Donc,
Excusez-moi, ça n'explique pas le « on le cache ». Parce qu'effectivement, que Bercy n'est pas en… Alors, mais par exemple, quand vous étiez vous-même à Bercy, est-ce que vous étiez parmi ceux qui le cachaient en se disant « oh là là, si ça se sait trop, on va avoir tout le monde qui va nous tomber dessus pour récupérer une miette du gâteau ». Est-ce que vous avez participé à ce « on le cache » ?
Bah écoutez, quand on fait des prévisions pluriannuelles, c'est un vrai débat. Le budget, il est annuel, il y a la notion d'annualité budgétaire. Mais quand on fait des calculs pluriannuels, en général, on se projette à 3 ans. Les lois de finances pluriannuelles sont de l'ordre de 3 ans. On était à l'époque, moi j'ai quitté Bercy en 2017, on n'était pas complètement à se projeter en 2024. Mais c'est vrai qu'on avait en tête cette souplesse d'ailleurs. Je cite régulièrement…
C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que vous le cachiez?
Ah, moi, je ne le cachais pas. Mais, si vous voulez, on avait en tête, nous en tout cas, qu'il y aurait une souplesse et la possibilité de desserrer un certain nombre d'étaux budgétaires que nous avons mis en place, je ne le renie pas, qui ont permis d'ailleurs de réduire considérablement le déficit annuel. Et on savait que les choses iraient mieux à partir de, je dirais, 2024, pas fondi 2023-2025, parce que tout ça peut varier encore. Mais prévoir à 10 ans ou à 15 ans, hein, le Conseil d'orientation des retraites s'y est essayé, vous voyez que ça donne quand même parfois l'occasion de revoir ces chiffres périodiquement. Quand on dit qu'il y a un déficit entre 7 et 17 milliards, vous voyez quand même, ou 18 milliards, vous voyez quand même qu'on est dans des fourchettes extrêmement larges.
On le savait, dites-vous, mais il ne fallait pas trop le dire, si je comprends bien.
Non, parce que au moment où nous demandions des efforts à tout le monde, et c'est probablement ce qui explique la déroute, si j'utilise encore un terme poli, du Parti Socialiste aux dernières élections, les efforts que nous avions demandés, on aurait peut-être dû, mais comme on demandait des efforts, on ne pouvait pas dire, vous savez, il y a aussi des choses qui vont bien et peut-être des perspectives positives. C'est toujours difficile quand vous demandez aux gens de faire des efforts. Si vous dites trop vite qu'il y a des réserves, ils le font un peu moins facilement. Mais on aurait pu avoir un discours différent. J'en étais d'ailleurs souvent partisan. Et de dire, on vous demande des efforts importants maintenant, mais on va pouvoir desserrer les choses un peu plus tard.
Ah, vous en étiez partisan, ce qui veut dire qu'il y a d'autres gouvernements qui s'y opposaient, si je comprends bien.
Mais vous savez, il y a beaucoup de gens d'abord qui contestaient la nécessité de faire des efforts pour revenir à des déficits moins importants, c'est-à-dire à moins de 3% du PIB. Et donc, il y avait effectivement un débat au sein du gouvernement. Et puis, je vais vous dire une chose qui m'a d'ailleurs souvent contrarié. À Bercy, c'est le ministère des mauvaises nouvelles. Tout le monde ne vous annonce que des mauvaises nouvelles. On vous dit les milliards qui vont manquer, on vous dit les crédits qui vont être dépassés, toujours pour cette espèce de ritournelle de l'administration et parfois de certains politiques à Bercy qui souhaitent toujours entraîner vers moins de dépenses et redressement des comptes. Et donc la tendance à Bercy, parfois ça contamine les ministres, c'est de toujours donner les mauvaises nouvelles. C'est pour ça que je dis très calmement et très sereinement, ouvrons le débat sur les retraites, il est ouvert maintenant, mais mettons tout sur la table. Et tout n'est pas mis sur la table. Okay. Les fonds de réserve, la fin de la dette, y compris d'ailleurs le déficit, parce que quand on parle de déficit de la sécurité sociale, ce déficit est depuis un ou deux ans artificiellement créé, mais c'est un autre débat peut-être, mais M. Darmanin a lui-même reconnu qu'il s'assoyait sur la règle dans la loi Veil de 1976 qui consistait à dire chaque fois qu'on baisse des recettes de la sécurité sociale, l'État doit les compenser. Et pour la première fois, ou pour la deuxième fois cette année, le gouvernement s'est assis sur cette règle. Et les parlementaires, d'ordinaire très sourcilleux sur ce point, n'ont pas beaucoup moufté.
Alors, on va revenir plus tard dans l'émission sur le déficit de la Sécu, mais d'abord sur les retraites, Henri Sterdyniak, est-ce que vous partagez le constat de Christian Eckert ? Il y a trois cagnottes, hein, il les a énumérées.
Il y a une cagnotte importante. Il y a un ensemble de cagnottes qui sont les réserves qui ont été constituées par différents régimes, qui sont le régime complémentaire des salariés, Agir Carco, la cagnotte est disponible si effectivement on passe à un régime unique. En ce qui concerne les professions libérales, ça se discute puisque ce sont des sommes qu'elles ont mis de côté pour compenser la future dégradation démographique de leur régime. Par ailleurs, bien sûr, on a le fonds de réserve des retraites, une 36 milliards actuellement, et puis on a la dette sociale. La fameuse CADES qui est actuellement en train d'être remboursée, ce qui fait que, en prévision, nous savons que on va rembourser jusqu'en 2024 et en 2025, nous serons libérés de cette contrainte et donc ça nous libère 24 milliards en prévision.
Bon, globalement d'accord avec Eckert, on va entrer dans le détail ensuite. Même question, globalement d'accord ?
Moi, je connais mieux la santé et la sécurité sociale que la retraite. Mais là, sur la CADES, quand on découvre quelque chose, j'ai l'impression, on dit que c'était caché. Mais c'est très, très connu depuis longtemps. Il y a 2 ans, à la présentation du plan de financement de la sécurité sociale à Bercy, j'avais posé la question à Gérald Darmanin. Je lui ai dit, en 2024, qu'est-ce que vous allez faire? Il va y avoir de l'argent à redistribuer. Il m'avait dit, voilà, 2024, je ne sais pas où je serai et on verra. Tout ça pour dire qu'on savait qu'en 2024, normalement, la dette disparaissant, il allait y avoir de l'argent disponible.
Mais si on le sait, pourquoi on ne le dit jamais?
Mais on le dit. Mais alors, le problème qui est important, c'est que il y a la banque de la sécurité sociale, qui s'appelle l'ACOS, qui prend les déficits et qui la reverse à la CADES, qui les rembourse en faisant des emprunts, ça coûte cher, on donne de l'argent aux banques par ce système-là, quand même, de façon assez importante. Et la banque de la sécurité sociale, l'ACOS, reverse le déficit, pas en continu, elle en garde une partie. Et là, elle n'a pas tout reversé. Ce qui fait que la Cour des comptes estime qu'il y a 46 milliards en 2022 à rembourser à la banque de la Sécu qui n'est pas encore versée à la CADES. Donc tout ça pour dire que oui.
Oui, aujourd'hui, et si je ne me trompe pas, fin 2018, on en était à un peu plus de 21 milliards d'euros de dettes à l'ACOS spécifiquement.
Voilà. Alors attendez, je comprends. Alors moi, je suis déjà perdu là. Ces quelques 20 milliards, ils viennent grossir ou amenuiser la fameuse cagnotte?
Non, ça grossit la dette.
Et donc l'effet sur la cagnotte, c'est que...
Eh ben, ça diminue la cagnotte.
Ça diminue la cagnotte, voilà. D'accord.
Mais temporairement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Marisol Touraine, avant de partir, elle dit, ça y est, la Sécu est quasiment à l'équilibre. Ça a été repris, effet gilet jaune, on est passé de 0 à moins 5 milliards à peu près.
Mais parce qu'on n'a pas compensé, cher ami.
En partie. Oui, vous avez raison.
Plus qu'en partie, je vous renvoie à des déclarations du ministre, ne serait-ce qu'au Sénat, je pourrais vous retrouver les dates et les lieux, il est exact, qui disait dès la fin de 2017 que 2 milliards d'euros ne seraient pas compensés.
Excusez-moi, pour être clair, Christian Eckert, quand vous dites « on n'a pas compensé », qui n'a pas compensé ?
L'État, pardon, je l'ai dit tout à l'heure. En 1976, dans la loi Veil, vous avez une disposition très claire qui dit « lorsque l'État diminue les recettes de la sécurité sociale », et c'est arrivé très souvent, sous tous les gouvernements, tous les allègements de cotisations sociales qui ont été mis en place par l'ensemble des gouvernements, de droite comme de gauche, ont toujours été compensés en termes de recettes par des versements de l'État à la sécurité sociale.
Vous avez raison, et c'est très important de le souligner, parce que le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale, ce n'est pas le même. Et il faut sanctuariser ce budget de la sécurité sociale.
Le problème, c'est que depuis quelques années, le budget de la sécurité sociale n'est absolument plus sanctuarisé.
Absolument.
Et qu'il y a des transferts qui sont organisés...
C'est tout à fait exact.
...qui sont organisés en septembre, où on fait passer des lignes du budget de l'État au budget de la Sécu et à l'intérieur du budget de la Sécu entre les différents régimes.
Et donc,
y a une présentation qui est faite pour faire joli, mais voilà, la signification économique est douteuse. Et donc, ce qui se passe en 2020, c'est qu'on a... pas compensé, grosso modo, 5 milliards d'exonérations de cotisations sociales, les exonérations sur les heures supplémentaires, la prime de fin d'année, la réduction du forfait social, le fait qu'on a baissé la CSG sur certains retraités. Donc ça coûte 5 milliards à la sécurité sociale, qui sont exactement... à peu près les 5 milliards de déficit.
Donc il n'y a pas de
vrai déficit.
J'entends parfaitement, mais alors est-ce que ce déficit, quelles qu'en soient ses origines, qu'il soit vrai, qu'il soit faux, Christian Eckert, est-ce qu'il ne vient pas amenuiser votre argument de « il y aura 24 milliards tous les ans grâce à la CADES »
Oui, alors votre question est tout à fait pertinente, comme d'habitude. Mais,
merci.
Je vais probablement vous choquer. 5 milliards de dettes supplémentaires à la CADES, c'est l'épaisseur du trait. Excusez-moi, pour vous et moi, 5 milliards, c'est énorme. Pour la CADES, c'est très peu.
Ah bah c'est quand même un cinquième des fameux 24 milliards, là, si je
calcule bien. Non, pardon, justement, Daniel, ne confondons pas la dette et le déficit. Aujourd'hui, la CADES a encore une dette d'un peu moins de 100 milliards d'euros dans sa caisse, enfin, de négatif bien sûr. Et tous les ans, on met 24 milliards pour faire en sorte qu'en 2024, on tombe à zéro. Bon, ce qu'on est en train de regarder, c'est les 5 milliards de plus qui vont faire que, il faudra peut-être 3 mois de plus pour arriver à zéro par rapport à l'échéance. Non, mais
excusez-moi, ça va être 5 milliards chaque année.
Oui. On n'en sait rien.
Quelles sont les raisons pour lesquelles...
Non, absolument pas. Le budget de la Sécu, c'est 5 milliards probablement en 2019. D'ailleurs, ce sera peut-être 4 ou ce sera peut-être 6. Hein. J'ai un peu l'habitude, excusez-moi, l'année n'est pas terminée. Donc, on parle de 5 milliards à la fin de l'année. On aura les comptes au mois de février-mars. Il y a parfois des écarts significatifs entre les prévisions et les...
Oui, mais ça va être de l'ordre de 5 milliards chaque année. Quelles sont les raisons pour lesquelles... Ce déficit devrait diminuer
non,
dans les...
Non, mais, pourquoi ? Écoutez, le déficit, pardon, excusez-moi, de la Sécurité sociale, en 2010, il était de l'ordre de 25 milliards. Et on est tombé quasiment à zéro en 2016-2017. Et là, on remet 5 milliards de plus. Je veux dire, excusez-moi, c'est difficile à comprendre pour ceux qui nous écoutent, même pour nous. Mais c'est presque l'épaisseur du trait, 5 milliards de déficit pour la Sécurité.
Ce qu'il faut dire, c'est que la Sécurité sociale n'a pas un déficit de 5 milliards en 2020. Ça, voilà. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu une entourloupe qui est qu'on a décidé que la CADES ne faisait pas partie de la Sécurité sociale. Pourquoi ? On ne sait pas.
Mais qu'est-ce qui vous laisse espérer que cet entourloupe ne se renouvellera pas chaque
année ? Je vous dis que du point de vue simplement comptable, on pourrait dire du jour au lendemain, la CADES est un organisme de la Sécurité sociale. Et à partir de ce moment-là, on dira, en 2019 comme en 2020, déficit, il n'y a pas de déficit de la Sécurité sociale de 5 milliards, il y a un excédent de 10 milliards. Parce que le problème, c'est qu'en réalité, si vous prenez globalement la Sécurité sociale, comme le fait l'INSEE dans les comptes de la nation, la Sécurité sociale a un excédent de 12 milliards en 2019, de 17 milliards en 2020. Donc elle est excédentaire si on prend bien en compte l'ensemble de la Sécurité sociale. Le problème, c'est qu'à un moment donné... Pour une raison qu'on ne sait pas, on a dit la CADES, on la sort des comptes de la Sécurité sociale et son excédent, et la CADES a un excédent de 15 milliards, on n'en tient pas compte. Et donc, en réalité, les administrations sociales ont un excédent de 10 milliards.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris pour quelle raison ces 5 milliards qui viennent en déduction de la cagnotte de la CADES ne viendraient plus en déduction les années prochaines.
Ils viendront bien sûr en déduction, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de la marge, parce qu'on a 10 milliards d'excédents en réalité. Aujourd'hui, une année normale, on a, en 2019, on a grosso modo donc 12 milliards d'excédents. Il est prévu 17 milliards pour l'année suivante. Simplement, on ponctionne cet excédent pour rembourser les marchés financiers et on dit tiens, il y a un déficit.
Alors,
on va sortir de...
Oui.
Ce qui me paraît important, votre première question, est-ce qu'il y a une cagnotte ? Oui. Est-ce qu'elle était connue ? Oui. Est-ce qu'elle est aussi importante que certains le disent ? Non. Mais ce qu'il faut savoir, et M. Ecker le sait très bien, c'est que pendant le quinquennat précédent, les hôpitaux ont été mis à un régime très sévère. Il y a une réduction des tarifs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une souffrance dans les hôpitaux, il y a une souffrance dans les EHPAD, il y a une souffrance dans tout le système de santé, et il faut remettre de l'argent. Alors, il ne faut pas remettre de l'argent n'importe où, c'est difficile, parce qu'il ne faut pas pérenniser les mauvaises habitudes, il faut faire en sorte qu'il y ait une réforme qui se fasse, meilleure organisation, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on voit les hospitaliers en particulier, mais même les médecins généralistes, qui travaillent énormément, parce qu'on manque de médecins, donc il faut remettre de l'argent, c'est clair, dans le système. Oui. Donc cette cagnotte, elle va aller aussi dans les hôpitaux. Là, il y a eu un peu d'argent qui a été versé. Mais est-ce que ça va suffire ? Donc le déficit, quel qu'il soit, risque ou pas, en tout cas, ça va coûter plus cher. Les EHPAD, ça va coûter plus cher. La dépendance, ça va coûter plus cher. Et quand vous demandez aux Français, est-ce que vous êtes pour qu'il y ait une diminution des dépenses publiques ? 80% répondent oui, il y a deux ans. Et on dit, bon, alors on va baisser la santé. Ah non ! On va baisser la sécurité. Non, l'armée, non, l'emploi, non. Donc, vous voyez, c'est toute la difficulté.
Alors, vous avez un tout petit peu anticipé sur la suite de la discussion.
Ah, je suis désolé.
En posant, mais c'est très bien, en posant la question de l'affectation, effectivement, voilà, de cette cagnotte, qui est une autre question, qui est une question importante qu'on va aborder maintenant. Alors, à travers l'étude détaillée des trois cagnottes qui sont dans la grande cagnotte, en commençant peut-être par la fameuse CADES, justement.
Par la fameuse CADES. Donc, la CADES, est-ce que c'est si important? Comment on va pouvoir l'utiliser? Cet impôt miraculeux, est-ce qu'il existe? Existera encore. Sur cette question, l'éditorialiste de BFM, Nicolas Dose, et François-Xavier Petri, qui est le chef de service économique de TF1, ne semblent pas totalement emballés par cette idée de cagnotte CADES.
Franchement, on marche sur la tête. On parle de quoi? À partir de 2024, les Français auront fini de rembourser la dette sociale. C'est quoi la dette sociale? C'est le sédiment de nos dettes honteuses sur la maladie, la retraite, la vieillesse, qu'on a logé dans la CADES en 1996. Chaque année, les Français remboursent 24 milliards d'euros via la CRDS et la CSG. Ouais, c'est un impôt, quoi. Mmh. Eh bien, donc, en 2024, on a fini de payer. Eh bien, plutôt que de rendre ça aux Français, de dire aux Français « vous ne paierez plus les 24 milliards par an », mais allons-y, on continue à prélever l'impôt et ça sera pour payer la réforme des retraites.
Et puis sinon, on peut aussi dire le prélèvement qui sert à financer la dette sociale, génial, la dette sociale, elle est finie en 2024, on va récupérer le prélèvement. Sauf que le prélèvement, il a été créé en 1996 pour disparaître avec la fin de la caisse de la dette sociale. Donc normalement, en 2024, la CRDS, elle disparaît, on n'est pas là pour la recycler.
Alors, deux arguments, là, dans ce qu'on vient d'entendre, Christian Eckert. Moi, ça me fait un peu penser, pardonnez-moi, à la vignette auto qui avait été créée justement déjà à l'époque pour les vieux et qui ensuite a été affectée, vous le savez très bien, en tant qu'ancien ministre du budget, à de toute autre finalité. Donc, cette CADES, elle a été créée dans un but très précis. On a créé la CRDS pour la financer dans un but très précis. Vous êtes en train de nous dire, quand elle servira plus à ce à quoi elle était prévue, on va l'affecter à autre chose, il n'y a pas de problème.
Mais le débat est tout à fait bien posé. Moi, je n'ai rien à dire à ceux qui ont dit qu'il y avait 24 milliards par an payés par les Français pour rembourser une dette. Une fois que la dette sera payée, on peut très bien dire on arrête de prélever ces 24 milliards. Ça peut être un choix politique. C'est un choix politique inversé au débat, bien entendu. Il y a une autre façon de raisonner. D'ailleurs, j'observe que c'est un peu celle qui est utilisée par le gouvernement. C'est de dire qu'il y a des besoins supplémentaires. Les besoins supplémentaires, il y en a effectivement deux qui sont bien connus, c'est ceux que vous avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire la question du vieillissement et de la dépendance, et la question, probablement, du renforcement des moyens sur la santé. Vous aviez raison de dire, je pense que c'est une des raisons de la déroute des socialistes, c'est que nous avons demandé beaucoup d'efforts dans le domaine de la santé, y compris à l'hôpital, et qu'il y a lieu probablement maintenant de desserrer les taux, une fois que les comptes sont globalement bien meilleurs, ils ne sont pas encore parfaits, que ce qui était le cas en 2012. Et donc, le choix, il est devant nous. Mais regardons les chiffres. La dépendance, le rapport qui a été fait sur la question de la dépendance, dit qu'il faudra 5 ou 6 milliards à partir de 2024-2025 pour faciliter les choses dans les EHPAD, pour mieux payer le personnel, pour mieux former, etc. Et pour diminuer le reste à charge des utilisateurs de ces structures. Oui, 5 à 6 milliards, d'accord. Deuxième idée, l'hôpital, vous avez raison, probablement, quelques milliards supplémentaires.
Excusez-moi, Christian Eckert, probablement, vous avez vu l'état actuel de l'hôpital? Vous avez entendu parler des centaines de chefs de service qui menacent de démissionner en ce moment parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Quand je dis probablement, c'est ma prudence, c'est sur le chiffre, sur le chiffrage. Je ne suis pas un spécialiste des comptes des hôpitaux, j'en ai quand même beaucoup entendu parler et j'ai beaucoup travaillé, mais je dis quelques milliards supplémentaires pour l'hôpital, mais mettons 6 milliards pour la dépendance, 4-5 milliards encore pour l'hôpital, ça fait une grosse dizaine de milliards.
C'est-à-dire que toutes les alarmes actuelles qu'on entend, tous les mouvements qui secouent le monde hospitalier en ce moment, vous paraissent exagérés. Vous dites oui.
Non, mais ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Je dis qu'il faut utiliser une partie de cette marge en direction des dépenses de santé. Oui, l'interrogation que j'ai, c'est sur le volume à y consacrer. Est-ce que 2, 3, 4, 5 milliards suffiront? Je ne suis pas suffisamment informé des choses. J'ai quand même quitté le gouvernement il y a plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, pour pouvoir valider un chiffre. Mais quand je dis 5 milliards supplémentaires pour les hôpitaux, c'est déjà quand même une somme conséquente. Et si on additionne ce que j'évoquais pour la dépendance, 6 milliards, ce que l'on peut évoquer pour l'hôpital, mettons encore 6 milliards, ça fait 12 milliards au total, c'est la moitié des 24 milliards qu'on évoque en termes de recettes annuelles disponibles. Mais l'autre choix, et c'est ce que prônent certains, Nicolas Dose par exemple, c'est de dire, ben non, finalement, maintenant qu'on a remboursé la dette, on baisse, enfin, on rend, on diminue, on supprime la contribution des Français au remboursement de la dette. On peut baisser les impôts, mais on peut aussi dire, sans prélèvement supplémentaire, on a les moyens de couvrir des besoins que personne ne conteste, la dépendance et les renforcements des moyens dans la santé, notamment dans l'hôpital public. Et il en reste pour les retraites. Oui. C'est ça qu'il faut se dire.
On est bien d'accord. Mais il n'en reste plus que 12 au lieu de 24. On a déjà fondu de moitié.
Soit, mais je reviens, pardon de me répéter, à ce que je disais au début de mon propos, tout au début de notre émission. Combien coûte la réforme de M. Philippe? Est-ce que vous avez vu un chiffre qui dit telle prestation sociale supplémentaire, puisqu'il nous présente ça comme des droits nouveaux, ça coûte 1 milliard, 2 milliards par an? Vous avez vu ça quelque part?
Nulle part, on est bien d'accord.
Nulle part.
Henri Sterdignac, sur l'affectation, cette question de l'affectation.
D'abord, il faut dire que jusqu'à présent, on vit une histoire tout à fait comique, puisque d'un côté, effectivement, il y a des pressions extrêmement fortes sur l'ensemble des dépenses de la protection sociale, et on nous dit, malgré ça, le système reste en déficit. Donc il faut dire clairement, le système n'est pas en déficit, on a effectivement une marge de manœuvre, mais simplement, le gouvernement et Bercy ont imposé à la sécurité sociale de rembourser d'urgence la dette sociale, alors qu'on ne rembourse pas la dette publique. Et donc, c'est là la première escroquerie. La seconde escroquerie, c'est qu'on nous dit qu'il va y avoir un déficit du système des retraites. Or, qu'on regarde en détail, ce déficit des systèmes de retraite jusqu'en 2025 n'est pas dû à des excédents de dépenses, il est dû au fait simplement que l'État diminue les traitements des fonctionnaires et donc qu'il envisage de baisser les cotisations que lui-même verse en tant qu'employeur. Ensuite, on aura naturellement en 2025 fini de rembourser la dette sociale, on disposera donc d'une certaine somme
et socialement, on décidera ce qu'on en fera, comme toujours.
C'est-à-dire, d'un côté, il y aura un combat entre les technocrates de Bercy et puis d'autre part, les sentiments que pourront exprimer les gens, les syndicats et les différentes forces en présence. Naturellement, il est évident qu'une partie importante de ces 24 milliards sera destinée à la dépendance, mais en contrepartie, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts sur les retraites pour la dépendance, parce qu'on va choisir d'utiliser une partie de ces 24 milliards. Il y a une partie de cet argent qui ira à la santé, tout à fait naturellement, et on peut dire aussi qu'après tout, on n'a pas besoin de se dépêcher de rembourser la dette sociale. Peut-être qu'on peut se contenter de rembourser que 10 milliards par an, et que dès maintenant, on peut donner un peu plus d'argent à la dépendance et un peu plus d'argent à la santé. S'il nous reste de l'argent pour la retraite, pourquoi pas? Mais c'est pas avec la CSG qu'on va financer la retraite, parce que foncièrement, la retraite, ça se finance par des cotisations sociales.
Juste une question technique, Christian Eckert, Henri Sterdignac, et vous disent, on pourra faire ci, on pourra faire ça, ce sera des choix politiques, techniquement, on peut, c'est-à-dire que tout ça est du ressort du législateur qui fait ce qu'il décide en toute liberté.
Du gouvernement, parce que le point de vue du législateur, il est relativement... il vient vraiment pour approuver ce que fait le gouvernement.
Alors, législateur ou du gouvernement.
C'est un autre débat, mais effectivement, c'est du ressort du législateur, ça, parfaitement. Il est vrai que le gouvernement impose ou influence, on dirait, assez fortement le législateur pour des raisons constitutionnelles que l'on connaît tous ici. Mais effectivement, quand on lui dit « c'est pas possible », non, c'est possible. D'ailleurs, personne dit « c'est impossible pour la dépendance », au contraire, c'était dans les rapports qui ont été produits il y a quelques mois, et il s'agit là de contributions que le Parlement pourra affecter, j'allais dire, comme il l'entend, sur proposition, bien sûr, du gouvernement. Et ça, c'est le débat sempiternel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Sur proposition, comme vous dites pudiquement. Alors, vous avez parlé au début de votre intervention d'un certain nombre de caisses, donc comment les définir, catégorielles. Hein. Donc, il y a la caisse des cadres, il y a la fameuse AGIRC-ARCO, et puis il y a toute une série de caisses constituées par des professions particulières. Alors, lesquelles professions particulières, Juliette, ont déjà commencé à se faire entendre?
Oui, l'idée de voir leurs réserves fusionner dans un nouveau système universel n'a rien pour plaire au régime autonome des retraites. On pense par exemple aux médecins, aux avocats ou aux pilotes.
Les avocats ont même de côté 2 milliards d'euros de réserves qui pourraient être absorbés dans le régime général.
Ça s'appelle une spoliation. Une spoliation. C'est comme si on venait demain chercher votre assurance vie, que vous avez cotisé de votre côté et qu'on vous dise « Ah ben désormais, ça ne vous appartient plus, ça n'appartient à l'État ». C'est inacceptable.
Autre inquiétude des médecins, leurs réserves. Leur caisse de retraite a cumulé au fil des ans près de 7 milliards d'euros pour garantir leur future retraite. Leur crainte que leur trésor de guerre soit fondu dans le régime universel.
On s'apprête à piquer les réserves, ni plus ni moins. Ce qui est en train de se faire, c'est un véritable hold-up sur les 7 milliards de réserves qu'ont constitué les médecins avec leur propre argent. C'est pas l'argent de l'État, c'est le nôtre.
Les pilotes, en commun avec les navigants commerciaux, ont une caisse de retraite autonome qui existe depuis 1950, 70 ans, qui est financée intégralement par les salariés et les compagnies aériennes, donc à jamais rien coûté contribuable. Et cette caisse autonome, on veut la garder. Il y a 20 000 personnes avec plein de professions différentes. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est d'avoir géré très correctement, avec sérieux, leur retraite depuis 70 ans. Et on est tous sur la même demande. On veut conserver ça.
Alors, Christian Eckert, j'imagine qu'à Bercy, ces discours-là, vous avez dû les entendre de manière assez forte. Les pilotes, les médecins, les avocats qui disent, en gros, à l'État, bas les pattes, nous, on a bien géré, on a notre caisse et tu viens pas nous la piquer. Qu'est-ce que l'État répond ?
Moi, je vous parle d'une petite région du nord de la Meurthe-et-Moselle qui est un ancien bassin minier. Il y avait ici des mines de fer. Sous mes pieds actuellement, il y a des galeries de mines de fer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que il y avait une caisse de sécurité sociale, pardon, des mineurs, qui avait d'ailleurs créé des droits importants pour les mineurs qui, malheureusement, par leur travail, mouraient très très jeunes compte tenu de la pénibilité de leur métier. Et cette caisse de mineurs, évidemment, était déficitaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus aucun mineur actif aujourd'hui. Il reste quelques retraités et il reste beaucoup, malheureusement, de veuves de mineurs. Ces gens-là qui ont eu une évolution démographique qui a fait que tous les actifs ou beaucoup, quasiment ont disparu et que tous les ayants droit restent, ont un régime déficitaire. Ce n'est pas parce qu'ils ont mal géré. C'est parce que l'évolution de la situation économique a conduit à ça. Prenons les avocats. Il y a aujourd'hui 4 fois plus d'actifs chez les avocats que de retraités. Pourquoi ? Parce que le nombre d'avocats, cette profession, s'est beaucoup développée. C'est le contraire à la SNCF. À la SNCF, le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités a complètement été inversé par rapport à la situation antérieure. Donc, moi, quand j'entends dire c'est parce qu'on a bien géré qu'on a des réserves, entre parenthèses, vous avez vu les chiffres par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, sont finalement relativement faibles. 2 milliards de réserves par rapport à 24 milliards tous les ans, ça n'a rien à voir. Mais ce sont souvent les évolutions démographiques ou de salaire. Starnilac a raison. Il y a eu aussi des politiques salariales qui ont fait que les recettes dans certaines branches se sont stabilisées, pour ne pas dire parfois même ont diminué. Même le nombre de fonctionnaires a d'ailleurs diminué assez peu, mais il a diminué. Alors que dans d'autres professions, vous aviez
face à vous, quand vous aviez face à vous les avocats, quand vous aviez face à vous les avocats, les médecins ou les pilotes, vous leur parliez des mineurs.
Ça m'est arrivé effectivement. Je suis désolé. Ça m'est arrivé parce que Si on veut faire un régime universel, moi, j'y suis défavorable. Pour d'autres raisons aussi. Mais si on veut faire un régime universel, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas aussi une mutualisation, je veux dire, des financements, et des, y compris des finances qui existent.
Alors, il y a Henri Sterdinia qui est en train de bouillir. Je ne sais pas très bien pour quelle raison il est en train de bouillir.
Non, mais je vous le dirai après. Je vous le dirai après.
Ah ben non, dites-le tout de suite.
Je vous le dirai après. Vous m'invitez. Ce n'est pas la peine de m'inviter si c'est pour ne pas me donner la parole. Je suis désolé.
Vous l'avez ?
Non, mais je veux dire, votre émission, elle n'est pas faite convenablement, c'est tout. Mais voilà. Bon, donc, là. Non, mais c'est tout.
Voilà. Allez-y.
Voilà, c'est tout. Je vous le dis. Bon, donc tout à fait simplement, il y a deux systèmes possibles. Soit effectivement, on a un système organisé par profession, ce qui est tout à fait possible, ce qui n'est pas scandaleux. Ça existe dans de nombreux pays du monde. Et à ce moment-là, il faut avoir des systèmes de compensation, c'est-à-dire qu'on compense entre les régimes tels qu'ils, pour tenir compte de la situation démographique. Ça existe actuellement, mais à des niveaux beaucoup trop faibles. Et donc, c'est pour ça que... On a encore des caisses qui sont excédentaires et des caisses qui sont déficitaires et qu'il y a une confusion pour savoir est-ce que c'est parce que c'est bien géré ou parce que c'est mal géré. Bon, les avocats, par exemple, donnent 100 millions par an à l'ensemble des caisses. Normalement, ils devraient donner non pas 100, mais 200, 300, parce que si on calculait bien la situation démographique. Et puis, il y a un second système où on dit on met tout le monde dans le même panier et à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison de faire des cagnottes.
Si je comprends bien, on est entre les deux. Là,
on est entre les deux. On va gérer un nouveau système et à ce moment-là, l'État peut dire je récupère toutes les cagnottes parce qu'en échange, je vais garantir la retraite de tout le monde parce que, voilà... dans ce second cas, l'État peut dire ça. Le problème, c'est que chacune des professions va dire « je ne suis pas d'accord », va porter plainte devant le Conseil constitutionnel. Ensuite, ça va aller au niveau de l'Union européenne et personne ne sait effectivement qui va gagner ou qui va perdre. Ça fait partie des questions amusantes que pose la réforme. Et on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas du tout sorti de l'auberge parce que dans la réforme, comme vous l'avez peut-être remarqué, à partir de 2025, les jeunes et une grande partie des gens ne cotiseront plus aux anciennes caisses. Donc les anciennes caisses, à partir de 2025, vont se trouver privées des cotisations de tous les gens qui sont nés après 2025 et vont se retrouver dans un déséquilibre total. Et donc, on peut dire, effectivement, à partir de 2025, ça va être n'importe quoi. Et la question des cagnottes des régimes autonomes, ça fait partie de ce grand problème.
– Philippe Leduc, sur cette question du choix à faire entre une caisse générale dans laquelle tout le monde est solidaire, les médecins et les avocats sont solidaires des mineurs ou du maintien du système actuel ?–
On voit bien la difficulté du système actuel parce qu'il n'y a plus de mineurs qui doivent payer et le problème du vieillissement de la population quand même, ce qui fait qu'il y aura de moins en moins d'actifs pour payer la retraite des gens et ça va être très différent d'une catégorie à l'autre. Donc mettre un peu d'ordre là-dedans me paraît assez logique. Il y a une chose qui est très frappante sur le site de l'INED, l'Institut de la démographie. Il y a la pyramide des âges qui est dynamique. Alors, on appuie sur un bouton et elle évolue en fonction des années à venir. Alors, on pense que c'est une pyramide. Ce n'est pas du tout une pyramide. C'est une marmite, comme dit quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un truc comme ça. Et puis, il y a deux manches. C'est les baby-boomers qui sont devenus papy-boomers. Et on voit que ça monte. Comme c'est dynamique, on voit que c'est un vrai tsunami, quoi, je veux dire. On ne parle pas assez du problème démographique et du vieillissement de la population. C'est un vrai sujet. Et donc,
on n'en parle pas assez. Les défenseurs de la réforme actuelle ne parlent que de ça.
Absolument. Ici. Voilà.
Ici.
Il faut le rappeler. Parce que c'est, évidemment, on ne parle que de ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme le changement climatique. On ne s'en rend pas tout à fait compte. C'est quand on voit cette courbe, cette pyramide des âges, qui n'est pas une pyramide, qui monte, avec un nombre de personnes qui vont être à la retraite, qui vont avoir la maladie d'Alzheimer, qui vont avoir des problèmes. On vit de plus en plus vieux, pour certains en bonne santé, pas tous, mais ça va coûter de plus en plus cher. C'est assez impressionnant. Non,
en sens inverse, on peut dire, qu'il y a des projections du corps, voilà, jusqu'en 2070, qui intègrent ce genre de phénomène. Donc ce genre de phénomène, il est intégré. Et on sait qu'effectivement, ben, on va avoir une période difficile entre 2037 et 2050, parce que tous les baby-boomers seront à la retraite, mais heureusement, ils vont décéder après. Et donc,
enfin, ils seront plus qu'à la retraite. Ils seront,
À la retraite. Ils seront
grabataires et dépendants.
Et certains deviendront dépendants. Heureusement, ils vont décéder après, sauf catastrophe, comme si on peut toujours imaginer des catastrophes, c'est-à-dire des découvertes médicales qui font que les gens restent beaucoup plus longtemps vieux et grabataires, et là, ça serait effectivement la catastrophe.
Ce qu'on peut espérer, c'est que
c'est qu'elle n'ait pas lieu.
Les mesures de prévention, traitement de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'exercice physique, diminuent ces pathologies chroniques qui vont arriver au grand âge. Diminuent aussi la maladie d'Alzheimer. De maintenir des relations cognitives relationnelles, ça permet de retarder, même si on a une maladie d'Alzheimer, ça permet de retarder tous les handicaps liés à la maladie d'Alzheimer.
C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Et c'est une bonne nouvelle. Non, c'est-à-dire qu'on restera. Non, on vivra pas plus vieux. Mais on vivra mieux, plus vieux. Et ça, il faut investir, ça s'appelle la prévention. Il faut investir énormément et faire sortir les petits vieux de chez eux, la marche, l'exercice physique.
Réduire la dépendance. C'est-à-dire que si on investit dans la prévention, pour réduire la dépendance.
Il y a une très grande incertitude sur le nombre de dépendants qu'on aura en 2070, parce que certains disent la dépendance est liée à l'âge. Et d'autres disent, attention, la dépendance, c'est lié à la distance, en fait, qui sépare de la mort. Et donc, à fur et à mesure qu'on vit plus longtemps, on vit aussi en meilleure santé, etc. Et donc, le nombre de dépendants ne sera pas aussi élevé qu'on pourrait le craindre. Ça fait partie des grandes incertitudes. C'est pour ça que... faut pas non plus attacher trop d'importance aux prévisions à 2050.
Mais on peut agir par de la prévention, c'est ça qui est important. Et ça coûte cher.
Alors, on a un peu débordé de la question des cagnottes. Christian Eckert, sur ce point.
Oui, alors sur ce point, et j'y reviens un peu, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport aux prévisions à 2050, mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est la croissance, l'amélioration de la production. Je reviens, à mon exemple des mineurs de fer. Entre le début de l'exploitation des mines dans les années 30 et la fin de l'exploitation des mines dans les années 60, le nombre de tonnes de minerais produits par un salarié a été multiplié par 10, compte tenu bien sûr de l'amélioration, de la modernité, de la mécanisation, etc., etc. Mais il en va de même également de la richesse et je dirais de la valeur produite par l'ensemble des salariés de notre pays. Certes, on va être peut-être un peu plus malade, peut-être un peu plus dépendant, mais on aura aussi une capacité de production, ça s'appelle la croissance, qui va quelque part, alors je ne sais pas si elle surcompensera les dépenses qui vont être engendrées par les besoins d'accompagner le vieillissement de la population, mais enfin qui va au moins le compenser, partiellement, totalement, plus, je n'en sais rien, et en 2050, 2060, on sera probablement plus là, en tout cas moi, pour pouvoir en parler. Donc,
on arrive à la fin de l'émission, on ne peut pas en commencer une autre, mais quand vous me parlez de croissance, moi j'ai immédiatement envie de vous objecter la soutenabilité écologique de la croissance et la question du bilan carbone de la croissance et la question de savoir si effectivement on peut implorer sainte croissance de nous sauver de tout ce qui...
Jusqu'à présent, le corps fait des prévisions de productivité, fait un scénario central avec des prévisions de productivité de 1,3% par an. Sur ce 1,3% par an, si on voulait maintenir le système tel qu'il est et s'occuper de la dépendance, il faudrait donner 0,3% chaque année de ce 1,3%. Et on peut dire 0,3% sur 1,3%, ce n'est pas énorme. Cependant, il y a, comme vous l'avez dit, les contraintes écologiques. Et pour certains, on ne fera jamais... le 1,3% qui signifierait qu'on doublerait encore notre PIB d'ici 2050. Et vous voyez très bien que si on dit on ne fera pas 1,3, on va faire 0,5, prélever 0,3 sur 0,5, ça va être plus difficile. Donc voilà, on peut être optimiste en disant il y aura de la croissance comme jadis, mais on peut également se dire Ben non, il n'y aura pas de croissance et donc il va falloir partager un gâteau qui ne va pas tellement augmenter et donc il faut passer à une société sobre et solidaire.
Alors je suis obligé de poser la question aux politiques. Est-ce qu'il faut sacrifier le climat pour financer la dépendance ?
Oui, absolument pas, bien entendu, mais ça pourrait mériter, bien entendu, une émission supplémentaire. On peut prendre rendez-vous. Il y a aussi des formes de croissance qui sont beaucoup et totalement respectueuses de l'environnement. Enfin, si vous voulez qu'on
parle de l'hydrogène. Notamment le soin aux personnes âgées, ça a l'avantage d'être des emplois à la fois peu délocalisables et des emplois font peu de gaz à effet de serre. Il faut évidemment refuser les idées idiotes selon lesquelles ce seront des robots qui s'occuperont des personnes âgées. Ça, c'est vraiment l'idée stupide.
Je voudrais qu'on
parler des piles à hydrogène, on peut parler de tas de choses qui feront de l'emploi et de la croissance de façon intelligente et qui préserveront l'environnement.
Comme vous dites, on prendra rendez-vous pour une autre émission. Je voudrais qu'on termine par une question qui peut paraître anecdotique, mais je voudrais que vous me disiez si elle l'est. À l'occasion de ce débat sur les retraites, on a vu émerger le débat sur la retraite d'une catégorie bien particulière, les sénateurs.
Alors, les sénateurs dans tout ça, à ce jour, un mandat de 6 ans pour un sénateur lui ouvre le droit à une retraite de 2190 euros net, si l'on en croit le Sénat qui répondait à Check News. Globalement, les sénateurs toucheraient des retraites en moyenne 2,5 fois plus élevées que les députés. Dans un système de retraite universel, ces particularités devraient se fondre dans le système global. Mais tout ça n'est visiblement pas encore très clair, comme on peut l'entendre dans les circonvolutions des sénateurs Hervé Marseille et Gérard Larcher, qui est le président du Sénat.
Phrase de Jean-Paul Delevoye, qui était citée par le Figaro ce week-end, et dans laquelle il mêlait les régimes spéciaux et les régimes parlementaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait de mêler les deux et d'amalgamer les deux ?
Ça aurait été... pour une fois, on aurait échappé au sujet. Je veux dire, nous, on a régénéré notre régime depuis déjà longtemps ici au Sénat. Je crois que l'Assemblée l'a fait aussi, d'ailleurs, à un niveau qui devient même préoccupant pour les députés.
Oui, parce qu'ils sont passés au régime général.
Je veux dire, franchement, on ne peut pas dire que ça soit très intéressant aujourd'hui.
Alors, vous le disiez, le Sénat a déjà touché à son régime. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles annonces ? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles choses qui sont...
C'est un régime qui est tout à fait transparent. Tout est consultable sur le site du Sénat et en fonction des réformes annoncées, évidemment, le Sénat en tiendra compte.
Est-ce que le Sénat est au-dessus des lois et au-dessus des autres Français ?
Pas du tout.
Le gouvernement dit régime unique pour tout le monde et vous vous dites on adapte mais on ne supprime pas.
Écoutez, c'est un régime, avantageux. Oui, c'est un régime autonome, c'est un régime qui aujourd'hui donne 3856 euros de retraite. C'est un régime qui est le fruit d'une histoire qui date de 1905.
Comme celui des avocats.
C'est un régime dans lequel les sénateurs cotisent 1,5 fois de plus que des cadres, 1,5 fois plus que les députés aujourd'hui depuis leur réforme de 2017. C'est un régime qui sera adapté pour passer au régime universel.
Alors, on se sent quand même un certain embarras. Est-ce qu'il faut passer les sénateurs au régime universel ? Je pose la question aux politiques.
Écoutez, moi, je ne suis pas et je ne serai jamais sénateur. Je pourrais m'en tirer comme ça. Je suis d'ailleurs pour la suppression du Sénat. Je suis très minoritaire sur ce point. Mais on a consacré notre discussion sur la question de la cagnotte ou pas cagnotte, etc. La question du régime unique pour tout le monde pose effectivement une question sur l'histoire sociale, sur les droits, sur l'ensemble des droits, des situations. Et ne regarder que la question de la retraite est, trop partielle. Moi, je suis pour l'alignement, la modération sur un certain nombre de régimes qui, parfois, et c'est le cas pour le moment des régimes des sénateurs, étaient un peu généreux, trop généreux probablement. Mais
Je note que vous n'êtes pas forcément beaucoup plus à l'aise que les sénateurs.
Je vous ai dit que j'étais pour la suppression du Sénat et pour une limitation des excès de ce type de régime. Après, il circule beaucoup de faux bruits. Et entre nous, quand on regarde des équilibres globaux, on est dans l'épaisseur du trait. Parce que la difficulté du gouvernement, c'est de dire « je fais un régime unique ». Et il est en train d'accumuler les exceptions. Les policiers, les forces de l'ordre, les conducteurs routiers, maintenant on va voir peut-être les sénateurs, etc. Et il est bien embêté pour arriver à un régime universel sans faire d'exception. Il est en train d'en faire les unes après les autres, probablement pour calmer un certain nombre de professions.
Henri Sterdinat, vous avez quelque chose à dire sur le sénateur ?
Non, mais j'ai simplement à dire qu'il n'est pas choquant qu'effectivement, il y ait des régimes spéciaux pour les professions qui tiennent compte des spécificités des différents métiers. Par exemple, danseuse de l'opéra, bon, voilà, il y a des spécificités. Donc, il n'est pas idiot d'en tenir compte. Et il n'est pas idiot de tenir compte du fait que certains métiers sont pénibles et que routier ou monter sur des pylônes pour réparer, c'est pas des métiers qu'on peut faire à n'importe quel âge. Et donc, il est légitime qu'on tienne compte de ça.
Et les sénateurs ?
Assez fatigant.
Il n'est pas choquant non plus que les gens qui ont eu des fonctions politiques qui, par essence, durent un temps relativement limité, ne soient pas complètement dans la misère après. Sinon, contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas les retraites des sénateurs et des députés qui plombent le système.
On est bien d'accord qu'on est dans le symbolique.
On est dans le symbolique, on est dans le symbolique.
Parfait, merci à tous les trois d'avoir éclairé nos lanternes sur ces 7 ou ces fameuses cagnottes. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.